On dit souvent d'une mauvaise expérience que ce peut être un mal pour un bien. Eh bien, illustration dans cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Florent Beaufils, alias Flo Why Not, comme nom d'illustrateur. Car oui, vous le connaissez déjà d'une certaine manière, car c'est lui qui a dessiné l'illustration de ce podcast ou qui travaille avec Happy Run sur le packaging des produits. Flo se présente comme un illustrailer. Il est designer, illustrateur, directeur artistique. Il travaille avec de nombreuses marques de l'univers du trail et de l'outdoor. Et puis, comme je le dis, illustrailer, il est coureur de trail depuis quelques années après avoir longtemps joué au foot. Il vous découvrira à quel poste, mais je peux vous dire que ce n'est pas celui où on court le plus. Un coureur de très très bon niveau, mais qui n'a pas tout à fait l'alimentation adaptée à sa pratique et à son gros niveau d'entraînement, qui est plus proche des 20 heures par semaine. Et cela s'est soldé par un abandon dans une course au Canada qui fut en fait un déclencheur, car après cet échec, il a revu son alimentation en course et hors course, notamment sur le plan des glucides. Dans cet épisode, nous allons discuter de cette évolution, de pourquoi des glucides, de ses erreurs qui lui faisaient perdre en lucidité notamment, aussi en énergie et qui le conduisait, selon ses mots, vers une forme de RDS, vous savez, le fameux syndrome d'épuisement dont on a déjà parlé régulièrement. Il nous explique comment il a revu son alimentation et comment il a été aidé pour le faire. Je remercie chaleureusement Flo pour son témoignage sincère et transparent qui montre aussi les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre entraînement, dans notre alimentation, en fonction de nos envies, de nos défis, de nos projets et aussi de notre caractère. Allez, c'est parti. Salut Flo.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien. Merci de m'inviter sur ton autre format de podcast qu'est Sport et Nutrition. Comme je dis, ça va bien, un peu fatigué parce que dernièrement, je viens de courir la Maxi Race, donc il y a encore quelques traces, qui est le tour du lac d'Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc 88 km avec 5000 mètres de dénivelé. Donc c'était une très belle course, mais voilà, on a un peu de temps quand même à retrouver la forme.
Tout ça pour sonner une cloche à la fin, quand même.
C'est ça, et le pire, tu vas pas me croire, c'est que j'ai oublié de la sonner.
Mais il faut que tu retournes.
Parce que je suis arrivé avec mes filles, je suis arrivé tout seul, donc le speaker m'a sauté dessus, et du coup, j'ai oublié la cloche. Voilà. Donc il faudra que je la refasse. Voilà, pour sonner la cloche.
Donc voilà, donc l'an prochain, Flo, il retourne à Annecy juste pour sonner la cloche. T'es obligé de faire les 88 km avant pour la sonner, ou tu peux dire je prends un raccourci?
Je crois que tu peux faire les autres formats de course. Pour, je crois que tu peux la sonner quand même si tu fais le 42 ou il doit venir à un 20 ou un 15, quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà, après, je sais pas si je retournerai dès l'année prochaine.
Ouais, on plaisante, mais je veux dire que cette course, t'en as pensé quoi en fait?
Et ben, moi, écoute, j'avais pas entendu que du bien sur cette course, notamment parce qu'on avait vu tous juste ces fameuses photos où il y avait des queues immenses parce que les sentiers, au bout d'un moment, étaient étroits. J'ai eu la chance l'année dernière de gagner un dossard, donc je me suis dit que c'était bête de pas la faire. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une super course. Et pour cette histoire, justement, de blocage, bah, ils ont eu une super idée. Ils ont pas une super idée, mais ils ont fait comme beaucoup de monde. C'est que maintenant, on part par vague et je pense que ça dilue pas mal le peloton et que ça évite les problèmes. Mais, moi, il a fait beau. Sincèrement, 88 km avec vue sur le lac d'Annecy. Ouais, il y a pire comme course, quoi. Voilà.
Ouais, et puis toi, tu pars dans une vague rapide.
C'est ça. Alors, ça part à 2h45 du matin. J'avoue qu'on est parti à 16-17 à l'heure, on va dire. Le réveil est assez brutal, mais ouais, voilà.
Non, parce que bon, alors ceux qui ne te connaissent pas quand même, on le dit, hein, on a fait un épisode dans Kilomètre 42, on avait parlé de ton parcours en long, en large. Mais avant des grosses courses, parce qu'il y avait des trucs que tu as fait depuis qui sont chouettes, faut le dire quand même. Alors, tu vas juste te représenter en quelques mots. Moi, ouais. Je vais commencer par dire un truc, c'est que tous ceux qui adorent, comme moi, l'image du podcast, c'est toi qui en es l'auteur. Donc, ça place déjà le talent graphique. Hein. Après, bon, le talent de coureur et tout, de sportif, je te laisse le dire, quoi.
Ouais, bon, écoute, je vais me représenter. Donc, Florent, 39 ans. Voilà, j'ai pris quelques années depuis la dernière fois. Voilà, on approche l'âge fatidique des 40 ans, donc 39 ans. Effectivement, dans la vie, je suis surtout, avant d'être coureur, graphiste. Donc voilà. Et puis de plus en plus spécialisé dans l'univers sportif, et notamment puisque c'est mon sport et donc que j'ai des contacts dans ce milieu, la course à pied. Donc voilà pour mon côté professionnel, et sous le nom de Flow Why Not, s'il y en a qui veulent aller voir, là je me fais ma pub, mon auto-promo de début, comme ça c'est fait. Et pour le côté coureur, moi j'ai commencé la course à pied fin 2018, sans prétention, avec juste l'envie de reprendre le sport après des années de football et puis un arrêt assez prolongé suite à la naissance de mes deux filles, Ambre et Inès, que je salue, et puis normalement Emily. Voilà. Et donc, j'ai été pris un petit peu d'amour pour la course à pied, notamment aussi parce que ça a bien fonctionné dès le départ. Et voilà, et donc j'ai commencé par des trailons qui m'ont amené à obtenir une qualification un peu surprise pour la Diagonale des Fous. Et voilà, et l'histoire s'est faite. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais plutôt des formats longs, voire des ultra-trails vers lesquels je tends. Voilà.
T'es breton ?
Je suis breton, tout à fait. Là où il n'y a pas trop de montée, ouais.
Non, parce que c'est important de le dire, parce que finalement, t'as couru avec le Team Bretagne.
Ouais, alors ça s'appelait. Alors oui, on peut dire que c'est le Team Bretagne. En fait, à l'époque, il y a un challenge qu'on a en Bretagne qui regroupe 7 trailons à travers la Bretagne, qui s'appelle le West Trail Tour. Et donc, dès la première année, j'ai décidé de faire ces courses-là, un peu par bêtise, hein, parce que quand on n'a jamais couru des courses de 50 km, je ne sais pas si c'est très intelligent aujourd'hui avec le recul. Mais bref, j'ai eu la chance de finir cinquième et de me qualifier pour cette Diagonale des Fous et dans l'équipe du West Trail Tour, donc, qui représente plus ou moins l'équipe de Bretagne, parce que c'est aussi relatif par rapport aux coureurs qui jouent le challenge tous les ans. Enfin, tous les meilleurs Bretons ne le jouent pas forcément tous les ans. Donc voilà, mais en tout cas, cette année-là, j'ai eu l'opportunité d'en faire partie. Et donc, la Diagonale des Fous que j'avais plus ou moins coché à faire dans 20 ans, je me suis retrouvé à être obligé de la préparer au bout d'une première année de course à pied. Voilà. Mais par chance, ça n'a pas amené que des bonnes choses, et non, très loin de là, mais le Covid a annulé l'édition que je devais faire, donc j'ai eu un an de plus pour me préparer. Mmh. Et pareil, avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être pas plus mal cette année, elle est peut-être bien tombée quand même. Parce que ça me fut un sacré morceau, la Diagonale des Fous.
Ouais, et pour ceux qui se posent la question du poste auquel tu jouais, t'étais pas le gars qui cavalait devant toi, hein, t'étais pas attaquant toi.
Non, moi je cavalais sur ma ligne de but en attendant d'essayer d'arrêter les ballons. voilà.
Ouais, mais c'est drôle parce que en fait, on en avait parlé dans l'épisode de Kilomètre 42, j'avais dit, mais c'est incroyable, il y a des nombres de gardiens de foot qui font du trail, qui font de la longue distance, qui mettent à galoper, etc. Alors qu'on a l'impression que c'est un poste où tu fous rien. Enfin, alors bien sûr, c'est très. Très moqueur, hein, dire que tu fous rien, parce que forcément, mais c'est vrai que c'est pas d'habitude les discussions. T'as toujours des joueurs de foot, parce que les joueurs de foot sont bons en course, n'empêche, faut le dire. Mais souvent, on dit c'est le mec à qui t'envoies le ballon devant qui courait pour aller le rattraper. Là, quand t'es gardien, c'est plus surprenant, tu vois.
Bah ouais, bah écoute, je te dis, je devais être frustré. Et puis, bon, par contre, c'est vrai que, mais à l'époque, j'avais pas du tout envie de faire de la course à pied. Sur les préparations d'avant-saison, j'étais souvent devant, malgré que j'étais gardien. Mmh. Donc en fait, il y avait bien un petit truc, mais que je n'avais pas forcément décidé. Voilà.
Alors, si aujourd'hui, on fait cet épisode, c'est parce que finalement, tu cours depuis 4 ans, c'est ça que tu as dit ?
Ça, ouais, 4 ans et demi, ouais.
Ouais. Et que, on s'est rendu compte, et puis on en avait un peu parlé dans Kilomètre 42, je me rappelle, de cette histoire de l'alimentation, comment gérer ça, etc. Mais en fait, tu as pris de l'expérience, forcément. Et tu t'es rendu compte qu'il fallait faire évoluer un peu ce que tu faisais quand même. Hein. Alors, je parle même pas parce que... Enfin, maintenant, avec le recul, tu sais, tu te dis, j'ai une année de Diagonale des Fous, c'est bien qu'elle soit plus loin, etc. et tout. Quand tu te rends compte, dans ces 4 ans, la somme de choses que tu as apprises, parce que tu fais des longues distances, puis tu fais des places, tu cours vite, enfin, n'empêche que... c'est quoi le truc que vraiment, tu vois, sur le plan alimentation, que tu as vraiment appris, tu vois, ces dernières années?
Alors, l'alimentation, déjà, je mettrais deux briques. Bon, aujourd'hui, on est là plutôt pour parler de l'alimentation en course, mais aussi l'alimentation hors course. Et j'ai appris plein de trucs aussi là-dessus. Alors, il faut aussi savoir que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Ça peut pas être le cas forcément pour tout le monde, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et notamment aujourd'hui, enfin moi je comprends pas que ça soit pas enseigné à l'école par exemple, tu vois, les bases de la nutrition, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc au début j'ai fait des erreurs comme tout le monde, c'est-à-dire que ça marchait, et puis comme tout le monde je pensais qu'il fallait être le plus fin possible pour courir vite, et nanani et nanana, sauf que je me suis retrouvé très vite en peut-être syndrome de Reddès. L'autre jour je t'entendais en parler, et quand tu disais les symptômes, je pense j'étais dedans. Donc ça, c'est l'alimentation hors course. Donc là-dessus, j'ai plus ou moins équilibré. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange, mais il faut savoir que quand tu cours, tu manges beaucoup. C'est logique. Et donc, faut pas hésiter, parce que sinon, tu feras comme moi à l'époque. À l'époque, le sport, ça marchait, mais je finissais mes journées comme un zombie, et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est l'alimentation hors course. Mais on va pas s'épancher dessus.
Si, si, on en reparlera. C'est super intéressant, l'alimentation hors course, parce que j'ai envie de te dire que c'est, ça fait partie de peut-être ce que les gens soignent font moins attention, mais qui, au final, si tu le fais pas hors course sur la préparation, ouais, ça représente 90%, j'allais dire 95% de ton temps, ou 99% du temps de ta vie, c'est de l'hors course, en fait. Donc c'est là que c'est le plus, plus important. Oui, c'est super important, quoi.
Ah, c'est important. Après, il y a ceux qui, comme tu dis, font pas attention, et ceux qui, sans doute, comme moi au début, et peut-être encore un peu aujourd'hui, font trop attention. Voilà. Et donc ça, c'est pas non plus génial, mais peut-être qu'après, on va, dans le fil de mon histoire avec les courses, on va y revenir aussi. Mm. Et donc l'alimentation en course. Bah écoute, au début, moi, j'ai fait comme tout le monde. Quand tu débutes, tu cherches les informations à droite à gauche, et puis. Et puis je suis tombé plus ou moins sur un plan type qui disait faut boire toutes les 15 minutes et puis prendre une barre toutes les 45. Voilà. En gros, voilà. J'ai fonctionné comme ça pendant 3 ans et demi, 4 ans même sur la diagonale, j'étais dans ce système-là de timer toutes les 45 minutes, tu prends une barre, tous les quarts d'heure, tu bois une gorgée et puis ça va. Et puis voilà, jusqu'à l'année dernière, en fait, tu vois, tu parles beaucoup de la diagonale, mais c'est pas la diagonale qui m'a marqué et qui m'a fait me poser des questions. C'est, je suis allé au Canada l'année dernière pour un trail qui me tenait à cœur, qui s'appelle le Arizona. C'est l'ultra qui est là-bas. Ça fait des années que je voulais le faire, et puis j'ai eu la chance de pouvoir y participer, d'être invité. Donc j'étais très très heureux de le faire. En plus, j'avais vraiment, j'ai pas peur de le dire, des ambitions sur cette course-là. Bah, sauf que ça n'a pas du tout été, puisque j'ai abandonné au kilomètre 60 sur les 125, et que ça ne s'est pas du tout bien passé. Malgré le début de course qui était très bien, je suis vite tombé dans un manque d'énergie très fort. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et déjà, il y a quelque chose qui m'avait choqué, et aujourd'hui, je me dis que forcément, ça ne pouvait pas marcher, c'est que j'étais aussi un peu tombé avec les années et les courses que je faisais. Tu manges le moins possible, et puis tu bois le plus possible, et tu vas le plus vite possible. Donc sur un 50, aujourd'hui, ça fonctionnait avec deux flasques, et j'arrivais au bout, et même c'est une connerie maintenant quand j'y pense, mais je le faisais, et ça fonctionnait. Au Canada, je suis parti bille en tête en me disant même stratégie, sauf que bon, 125 bornes... Et à mi-course, j'étais vraiment pas bien mi-course, enfin un peu avant mi-course, un peu avant mon abandon, 10 km avant. Et déjà, les mecs sur le ravitaillement me disent « Tes deux flasques-là sont encore à moitié pleines, tu les as remplies ?»« Ah non. » « Ah non, ah non. » Et là, les mecs m'ont dit « Alors là, déjà, il y a un truc qui va pas, tu vois. » Avec les deux premiers ravitaillements, ils ont fait n'importe quoi, parce que je suis parti comme sur une course courte. Et c'est complètement... idiot. Les deux premiers ravitaillements, en gros, je les ai chintés, donc kilomètre 50, j'avais peut-être 400 millilitres d'eau que j'avais récupéré, et puis j'avais dû manger 3 barres, quoi, 4 barres. Bon, bref, j'ai abandonné. Voilà, j'ai pas tout remis tout ça en cause, et je suis tombé, plus ou moins par chance, sur un poste d'un athlète français, c'est pas Baptiste Chassagne, qui dévoilait son plan de nutrition sur la CCC. La CCC, c'est une des courses de l'UTMB. Et là, quand j'ai vu tout ce qu'il mangeait, je me suis dit, il y a un problème. Houston, on a un problème. Parce que là, soit il a vraiment très faim, soit il y a un truc qui va pas. Et donc, de là, je me suis posé des questions, et je suis du coup allé voir, pour pas faire de bêtises cette fois, Corentin Chéral, que tu as reçu aussi, qui est une diététicien du nutritionniste du sport. Qui a notamment bossé pour une équipe cycliste pro, et qui a été lui-même cycliste pro. Et donc, on a revu tout ça. Et effectivement, on a vu qu'il fallait que j'augmente ma dose de glucides pendant les courses pour pouvoir maintenir un certain effort. Aussi, ma dose d'hydratation. D'ailleurs, pas de l'hydratation, juste de l'eau, comme beaucoup de monde fait, mais l'hydratation avec des glucides, une fois de plus. Donc, tout ça, ça a changé pas mal ma façon de voir. Après, on a parlé aussi un peu du hors-course. Mais voilà, et donc, à partir de ça, donc ça, c'est pas si vieux, hein, au final, puisque le Harikana, je l'ai fait l'année dernière. En fin d'année dernière. Donc là, je suis encore en phase d'expérimentation. Hein. Une fois de plus, moi, je ne suis pas du tout nutritionniste. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà. Et donc, c'était octobre. Là, on est en juin. Ça fait 8 mois que j'ai augmenté vraiment mon ratio de glucides prise à l'effort nettement. Alors, déjà, il faut savoir que maintenant, je ne fonctionne plus à l'heure. Comme ouais. Je te disais tout à l'heure, c'était timé. Et donc avec Corentin m'a dit, et puis finalement c'est logique, il m'a dit, mais tu sais, alors peut-être que quand tu fais un marathon, une course sur du plat, finalement, voilà, l'effort est plutôt, même si à la fin tu es plus fatigué, mais l'effort, on va dire, est constant parce que tu es sur le même type de parcours. Mmh. Si toi tu fais du trail, des fois tu vas faire une montée qui dure 1h30, un effort très dur, et puis après tu vas faire une descente qui est un effort beaucoup plus facile, donc c'est complètement idiot en fait de faire toutes les 45 minutes parce que tes besoins énergétiques vont pas être les mêmes selon le tracé ou le profil sur lequel tu cours. Donc maintenant je fonctionne, alors ça demande un peu de réflexion. Bon, moi une fois de plus j'aime bien faire ça tout seul. Après on peut se faire l'idée d'un nutritionniste, c'est de prendre le profil de la course et puis de placer ses aliments dessus et à quel moment je les prends. Là il y a une montée, donc une barre je vais la digérer moins bien, donc avant la montée je vais prendre un gel. Là ça va être une partie plus courte, et écoute, là je peux prendre une barre, enfin voilà. Et j'ai énormément augmenté aussi les doses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu vois, sur la Maxi Race, ça va sans doute paraître énorme à des gens, hein, mais j'ai dû prendre 20 à 25 produits sur les 88 km, quoi.
En combien de temps ?
En 11 heures.
Attends, 11 heures, 20 à 25 produits, ça veut dire que ça fait 2 produits par heure, quoi.
2 à 3 par heure, ouais. Plus par heure, une flasque avec un mélange glucidique dedans. Et donc, on arrive à peu près 80-100 grammes de glucides. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup, moi je juge rien, hein, mais aussi beaucoup de gens qui disent qu'à la limite, il ne faut pas manger, les fameux régimes cétogènes et tout. Bon, moi, j'avoue que j'ai un peu essayé, ça ne marche pas sur moi. Et depuis que justement, je suis sur ce régime, on va dire, plus glucidique, ce que j'ai remarqué aussi, hormis les courses, parce que je m'entraîne, il faut s'entraîner pour ça, hein, parce que si demain, vous vous mettez à manger 80-100 grammes de glucides par heure comme ça, vous êtes sûr que la course, vous allez l'abandonner et que vous allez avoir un problème. C'est certain. Donc, je m'entraîne. Et à force de réussir à assimiler les glucides à l'effort, ce que je remarque, c'est que je suis moins fatigué pendant les séances et surtout, je récupère beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fatigué d'une séance à l'autre.
Ouais.
Donc, voilà. Alors après, il y a peut-être aussi un petit effet, comme on dit, je trouve plus mon mot. Comme j'ai été conseillé, il y a peut-être... Je trouve plus
placebo un peu, tu penses,
voilà,
que tu as un
niveau
petit
mental, ce côté rassurant, on est rassuré et finalement ça joue, mais rassurant ou désolé, je profite. Mais en tout cas, enfin, moi j'ai l'impression que sur moi ça m'a aidé dans pas mal de choses, que ça soit pendant les courses à maintenir une intensité, bon, pas musculaire, hein, c'est pas non plus de la potion magique, mais en tout cas au niveau énergie, et ça a mieux récupéré également. Voilà un peu l'histoire.
Tu sais que ça confirme aussi ce que les invités ont dit, en fait, pas mal d'invités, parce que on peut aller. Je mettrai des liens vers l'épisode avec Mathieu Blanchard, par exemple, qui disait qu'il s'entraînait à manger beaucoup de glucides, notamment pour préparer son estomac et être capable de manger beaucoup en course, donc l'entraînement et tout. Donc, tu vois, ça confirme vraiment ça. Puis j'avais reçu aussi Mathieu Lambert. Sur Kilomètre 350 et qui m'avait donné le truc, qui lui il est dans le cyclisme, il est entraîné en cycliste, il suit des équipes de vélo et tout, enfin il était je sais plus quelle équipe, peut-être Cofidis d'ailleurs, en stage avec eux et tout, et il me dit, il a donné le chiffre aussi de 100 grammes de glucides par heure, et tu sais ce que j'ai fait moi quand il a donné ce truc là, j'ai pris les petits sticks de miel, je me suis dit attends, faudrait que j'en prenne 4 par heure, un tous les quarts d'heure comme ça pour avoir la dose qu'il a donnée. J'ai dit, c'est juste impossible. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait que je mange en permanence. Mais t'as pas eu cette impression-là au départ ?
Eh bah, ouais, c'est un peu ça, en fait. Tu manges un peu en permanence, comme tu dis. Là, je t'ai pris l'exemple de la Maxi Race, mais même sur un trail plus roulant qui est chez moi, là, qui s'appelle le trail de Plaintel, l'année dernière, 42 bornes, et puis, tu cours assez vite. Bon, en gros, on va dire qu'en moyenne, je mangeais quelque chose tous les 4 km, quoi. Donc, ça revient très vite, quoi.
Surtout que toi, 4 km, tu cours vite, toi. Enfin, faut le dire.
Ça revient très vite.
Tu lui fais à quelle vitesse tes 4 km?
Bah, ça va dépendre du profil, mais sur un profil plat en course, on va dire 4 minutes, quoi. 4:30, quoi.
Voilà, donc ça veut dire que ça fait manger à peu près effectivement toutes les 20 minutes.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu
Ouais.
près ça. Là où avant, j'étais toutes les 45. Donc, la différence. Voilà. Mais une fois de plus, moi, je vais pas conseiller à tout le monde de le faire demain.
Mais tu sais ce qu'on avait dit, Mathieu Lambert en avait parlé, il avait dit que justement, le fait de prendre des glucides comme ça permettait d'avoir moins de fatigue pendant la séance et de mieux récupérer. Et c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, toi, tu l'as vraiment ressenti ça.
Ah bah clairement, hein, clairement. Alors il y a aussi l'expérience qui joue parce que ça fait plusieurs années que j'en fais maintenant et que tu assimiles mieux les séances, mais depuis que j'ai entamé ce régime, enfin, ce régime, cette façon de fonctionner avec Corentin, bah ouais, clairement, je suis beaucoup moins fatigué, je peux enchaîner les séances beaucoup plus facilement, ou là où des fois ça devenait compliqué sur des gros blocs, quoi. Et clairement, moi je le ressens, donc voilà.
Mais tu t'entraînes combien de temps par semaine pour donner à peu près un ordre d'idée aux gens en fait?
On va dire entre 15 et 20 heures. Entre 15 et 20 heures qui vont se découper généralement entre 7 et 8 heures de course à pied, entre 7 heures de vélo, on va dire, et puis le reste du renforcement musculaire à force de 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, des petites séances. Je fais pas de grosses séances de renforcement musculaire d'une heure, il en prend tout, mais voilà. Donc, ouais, mais en tout, ça fait des volumes, ouais, aux alentours des 15 heures, on va dire, plus que des 20 heures par semaine.
Ouais, c'est pas un petit volume quand même, hein.
Et donc
C'est
forcément,
un bon volume.
ouais, c'est ça. Donc forcément, j'ai quand même besoin d'apports conséquents. Et bah, je rebondis en ce que je te disais au tout début du podcast. Quand j'ai commencé, alors je m'entraînais pas autant, mais effectivement, je mangeais pas assez. Et d'une séance sur l'autre, j'étais vraiment. Alors là, on parle du hors course. Je mangeais pas en course et hors course. Je mangeais pas assez. Et j'étais vraiment épuisé. Ce qui n'est pas bon, voilà. Donc effectivement, quand tu t'entraînes autour des 15 heures, bah, tu as besoin de manger, tu as besoin d'énergie, hein, parce que sinon, le corps, il comprend pas. Hein.
Et enfin ta montre, enfin ou tes applications, elles te montraient pas les calories que tu consommais, c'était pas, enfin parce que tu sais moi sur le vélo l'autre jour j'ai fait Gravelman et à la fin il m'annonce 6600 calories dépensées sur ma
Ouais.
journée. J'ai dit waouh, attends, et comment je fais pour les manger? Après j'ai vu un documentaire sur Amazon Prime là sur une chef qui
Ouais.
où il montre une équipe de vélo où elle dit ouais un cycliste il grille 6000 calories dans une étape du Tour de France, et elle dit c'est fait 4 fois ce qu'on mange. Ce qu'elle, elle mange, tu vois, à peu près. Et
Ouais.
j'ai essayé de me représenter, tu vois, et de me dire, mais attends, ce chiffre-là, j'y
Ouais.
prêtais jamais vraiment attention, tu vois. Tu faisais pas attention, toi, à ce chiffre-là qui était donné sur ta montre ou des trucs comme ça, de dire, qu'est-ce que ça peut représenter vraiment pour arriver à y combler?
Bah, je t'avoue que non, je fais pas trop attention, je suis pas trop attaché à toutes ces données et tout. Maintenant, ce que je sais et ce que j'ai vu avec Corentin, c'est que de toute façon, tu combleras pas tes pertes, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je donnais le chiffre que j'ai mangé 22 barres en 11 heures. Mais finalement, à la fin de la course, je serai toujours largement en déficit calorique parce que, comme tu dis, sur les 11 heures, j'ai dû perdre pareil, 6000 calories, à peu près. C'est impossible de remanger ça pendant la course et de combler parce que déjà, quand tu manges 3000 calories par jour, déjà, ça fait des bons plats, quoi. Alors 6000, c'est juste pas possible. Tu seras toujours en déficit. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à, une fois de plus, il faut s'entraîner, mais il faut pas hésiter à manger. Et tu vois, j'en ai parlé avec Quentin, je crois que l'autre jour, je l'ai entendu le dire aussi. De toute façon, même si tu as l'impression de manger énormément en début de course, quoi qu'il arrive, à la fin de la course, tu seras en déficit. Donc voilà.
J'ai eu une pensée, mais je me suis dit quand même, ton budget alimentaire, il a dû sacrément exploser avec ce changement-là.
Alors c'est vrai qu'à la maison, je mange beaucoup et au début, c'était un peu. J'avoue qu'au début, ça me gênait parce que j'ai vu mes assiettes grossir et j'ai eu l'impression que je mangeais énormément. Et l'autre jour, je crois que c'est Blandine Hirondelle qui disait ça dans un autre podcast l'autre jour, et j'ai eu cette impression, je me suis reconnu dans son témoignage, c'est qu'au début, quand j'étais invité chez des gens, j'avais encore faim, mais je n'osais pas me resservir, parce que tu te dis, ben c'est dingue, déjà j'ai appris à manger plus qu'eux, moi je remangerai bien encore, et eux, ils sont tous, ah oh, je suis calé, j'en peux plus, et tu vois, tu te demandes si tout va bien. Voilà, c'est très bizarre. Alors après, bon, bah, budget alimentaire, comme tu dis, je sais pas, j'ai pas trop fait attention si ça va augmenter ou pas. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que moi, j'ai la chance pour ce qui est course, c'est d'avoir un partenaire. Et forcément, voilà, c'est sûr que ça aide parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont pas donnés, sauf si tu les fais maison, mais il faut déjà, de toute façon, acheter les matières premières. Mmh. Voilà, mais bon, ça reste aussi la santé, hein, donc, vraiment, voilà.
Non, mais après, en plus, j'ai une petite anecdote parce que la semaine dernière, alors, par rapport au jour où on enregistre là, je suis rejoindre mon ami Hermano qui fait la traversée de la France en swimrun. Et le soir, on mange à l'hôtel,
ah oui, j'ai vu ça,
au
ouais.
restaurant. Et lui, il est végétarien. Et le seul plat végétarien, c'est une salade végétarienne. Tu sais, et j'ai vu son assiette arriver. Et je lui dis, mais c'est ton plat, ça? Tu manges que ça? Parce que j'ai regardé son assiette, j'ai dit, mais elle est ridicule. Et moi, à côté, tu sais, je mangeais un burger avec des frites. Et en me disant, je suis pas sûr d'être calé de mon côté, alors que... Honnêtement, enfin, ouais. Moi j'ai fait ma séance de vélo, mais lui, bon, c'était sa journée de repos. Donc, il y avait eu quand même, il avait déjà eu, je sais pas, 600 ou 700 kilos ouais. dans les jambes, tu sais, sur 15 jours. J'ai regardé, j'ai dit, mais... Et puis le lendemain, tu sais, ça m'a vraiment perturbé cette histoire, tu sais, j'en ai reparlé et tout. Il m'a dit, non, mais effectivement, deux soirs comme ça, avec un truc comme ça, c'était pas assez, tu vois, et que, bah, encore lui, il a du ravitaillement, tu ouais. vois, chaque fois qu'on retrouvait le camion, le van, là, sur le jour où j'ai couru avec lui, il mangeait en permanence, etc., pour avoir des trucs. Mais c'est vrai que cette dépense calorique, déjà, elle est difficile à combler quand tu manges normalement, parce que toi, tu manges de tout, toi.
Tout sauf la viande. Je mange pas de viande, mais je mange du poisson. Enfin, les protéines, je les trouve ailleurs. Voilà. Mm. Ça, c'est aussi des choses que j'ai appris, tu vois, en faisant du sport. Où trouver des protéines ailleurs que la viande. Mais sinon, je mange de tout.
Ouais. Ouais. Et bah tiens, où trouver des protéines alors ailleurs que dans la viande? Parce que ça va intéresser plein de gens.
Alors, bah, du coup, le poisson, forcément. Les œufs, moi je sais que je mange beaucoup d'œufs, notamment le matin. Enfin, beaucoup d'œufs, je mange un œuf tous les matins, par exemple. Mm. Mais pour ceux qui ne mangeraient en plus, enfin, qui seraient vegan, tout simplement, bah, il y a des produits comme que j'ai appris à découvrir hein, depuis que je cours, qui sont les pois chiches, les lentilles, le soja. Dans tout ça, vous avez énormément de protéines, les amandes, tout ce qui est noix. Dans tout ça, il y a pas mal de protéines et on peut justement combler, on va dire, ce déficit qu'on pourrait avoir parce qu'on ne mange pas de viande.
Je sais pas si tu fais partie de la team beurre cacahuète ou pas, toi.
Ah, je vais le dire. Ouais, je pense qu'avec le houmous, c'est mon deuxième produit préféré, tu vois. Donc voilà. Donc si, j'en fais vraiment partie. J'en mange beaucoup. J'ai fait un week-end l'année dernière avec mes potes. Alors ils ont pas trop apprécié le beurre de cacahuète et ils en revenaient pas que je puisse en manger autant. Donc voilà.
Et alors une autre anecdote, c'est que j'ai eu un autre invité l'autre jour en message.
Je te rejoins là-dessus.
Et j'ai rigolé parce que j'ai fait une commande il y a pas longtemps et j'avais, je crois, 3 kilos de beurre cacahuète dans ma commande. Et il me dit, ah bah, je vois qu'on a le même fournisseur et tout. Je dis, ouais, mais ça, je pense que j'ai abusé, j'ai quand même 3 kilos de beurre cacahuète. Et tout. Il me dit, bah tu sais, moi j'en ai 6,5 kilos dans ma commande. Je regarde. Je dis, waouh. J'ai dit, bon, elle me dit, mais on est 2 ou 3 et tout. Je dis, ouais, mais quand même. Mais tu vois, et vraiment, et on avait parlé aussi avec Nouchka Diet, etc. Bon, là, moi je parle du beurre cacahuète, mais on pourrait parler aussi de la purée d'amande, les oléagineux et les purées d'oléagineux. Quand on a besoin de calories et qu'on a besoin de protéines, etc., c'est quand même des sacrées ressources, surtout que. La densité est tellement importante que finalement, c'est facile, j'ai envie de dire, de gonfler sa ration avec ça. Quoi.
Complètement. Et c'est bien meilleur qu'une marque italienne de crème chocolatée qu'on ne citera pas, du point de vue, du point de vue apport nutritionnel. Donc clairement. Ouais.
Et alors, sur l'hydratation, t'as dit un truc quand même, t'as dit tu bois aussi des glucides. C'est-à-dire que avant t'étais calo quand tu faisais tes courses. Tu disais tout à l'heure que même pour la boisson, maintenant tu bois des glucides. Enfin, je crois que c'est ce que t'as dit en plus hein, tout à l'heure comme expression.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'avant t'étais calo et maintenant t'as changé tes boissons aussi.
Et ben jusqu'à cet abandon, effectivement, je partais avec une flasque d'eau. Et une flasque de ceinture. Donc, aucune calorie là-dedans. Et ça, c'est pareil. J'ai vu ça avec Corentin qui m'a dit que finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Qu'au-delà de ne pas assez s'hydrater, aussi, il fallait de toute façon essayer d'engranger des calories via ce moyen aussi. Parce qu'en plus, comme c'est du liquide, on les digère mieux. Et donc, maintenant, dans les deux, je mets de la poudre glucidique. Voilà, pas de la poudre énergisante, vraiment de la poudre du glucidique. Si je prends le dernier produit, par exemple, de Pyron, qui est un mélange de poudre d'avoine avec de la datte et du miel. Donc voilà, on est sur quelque chose qui va apporter encore plus de glucides, quoi. Et donc, dans les deux flasques, je n'ai plus d'eau claire. Également, je l'ai appris, j'arrête la ceinture ou des mélanges gazeux parce que ça peut provoquer des problèmes gastriques. C'est pour ça qu'avant, par exemple, je prenais du coca sur les ravitaillements. Alors, je ne bois jamais de coca. Bah, maintenant, je ne le ferai plus parce que je sais que c'est une bêtise et ça peut provoquer des problèmes gastriques à cause de la présence des gaz. Enfin, voilà, c'est une boisson gazeuse et l'estomac, voilà, il galère déjà pas mal quand vous courez parce que finalement, votre corps ne s'occupe plus de votre estomac parce qu'il a tellement d'autres paramètres à gérer parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Si en plus votre estomac qui doit se débrouiller seul pour le coup reçoit des boissons gazeuses, ça peut devenir compliqué.
Ouais, ta ceinture est restée gazée quand même parce qu'à force de la secouer en courant, il ne devait plus rester grand chose comme gaz quand même. Mais bon, ça te faisait un apport d'électrolytes, j'ai envie de dire, de minéraux. Tu ne prends pas d'électrolytes ou de choses comme ça en complément?
Ouais, généralement, tu en as dans les boissons glucidiques, il y en a quand même un petit peu, tu vois. Il y a quand même du sel ou ce genre de choses. Sinon, non, je ne prends pas un complément. Puis tu peux en trouver aussi dans les bars que tu prends. Enfin, finalement, voilà. Après, non, pas plus que ça. Sinon, je ne mets pas de pastilles ou de ce genre de choses.
Et donc, tu n'as plus... Alors, c'est ça que tu vois, qui me surprend. Plus de flasques d'eau. T'es pas écœuré au bout d'un moment? Parce que moi, tu vois, si j'ai pas une flasque d'eau un peu claire, alors peut-être qu'après, sur les ravitaillements, t'en prends, je sais pas. Moi, au bout d'un moment, tu sais, ça m'écœure un peu. T'as pas du tout, surtout que la chaleur et tout, t'as pas le sentiment d'être écœuré au bout d'un moment?
Ben non, moi, j'ai cette chance. C'est vrai que c'est le problème de beaucoup de personnes qui peuvent vite être écœurées par des goûts ou ce genre de choses. Même si on parle autre chose que l'hydratation, à part des bars, ils en ont marre. Moi, c'est vrai que c'est pas un problème que j'ai. Les flasques, tu vois, sur Annecy, je les ai toutes bues et c'est très bien passé. Les produits à manger ou les gels, peut-être que j'en ai pas envie, mais même si j'en ai pas envie, je le prends et ça passe quand même. Non, moi, j'ai cette chance, pour le moment, en tout cas, de ne pas être écœuré, ouais. Donc ça, je peux pas parler à la place de ceux qui le sont, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai cette chance que ça ne soit pas le cas.
Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, l'autre jour, sur mon fameux périple en vélo, au bout de 120 ou 130 km sur mes 170, j'étais bien content, tu vois, j'ai trouvé un bar qui m'a rempli avec de l'eau. Et j'étais bien content d'avoir de l'eau, j'ai envie de dire de l'eau fraîche, tu vois, mais sans rien dedans. Alors, j'avais toujours mon bidon de boisson glucidique, pareil, parce que pareil, hein, moi, je me déplace plus sur mes petits sachets maintenant, sur des longues distances comme ça. Mais quand même, tu vois, le deuxième bidon, il y avait de l'eau, il y avait un fond, tu vois, un tout petit fond de boisson d'électrolyte, mais qui était tellement dosé, tellement noyé que finalement, ça ressemblait de l'eau. Et tu vois, je l'ai apprécié. Ça fait partie, tu vois, de ceux qui... sur des trails, tu vois, par exemple, moi j'avais toujours une flasque où j'avais que de l'eau, vraiment que de l'eau, tu vois. Et j'avais pas, si dans l'autre j'avais un mélange boisson d'effort, dans une j'ai toujours que de l'eau parce que tu vois, j'aime bien cette sensation d'avoir de l'eau, quoi. Enfin, tu vois, rincer la bouche, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est vrai que t'as de la chance là-dessus, sur ce point-là, mais.
Ouais, une fois de plus, en plus, c'est ce que je faisais avant, hein. J'avais toujours au moins une flasque. Tu vois, au moins une flasque d'eau claire, mais non, après ça vient aussi peut-être de l'entraînement, parce que maintenant à l'entraînement, même pour des sorties d'une heure, j'essaye de alors peut-être pas mettre la dose que je mets en course, mais tu vois, de mettre un peu de miel ou quelque chose pour justement m'habituer aussi à absorber des glucides et puis peut-être aussi à pas me dégoûter de ce goût-là. Enfin, tu vois, ça m'aide peut-être, ça je suis incapable de te l'affirmer, hein, mais. Comme maintenant, je fais même plus, enfin, même à moindre entraînement, je prends quelque chose avec moi. Peut-être que ça aide aussi.
Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que sur toutes les sorties, même les sorties courtes, alors je pense que la plus courte pour toi, combien de temps elle représente, tu as toujours un truc, tu t'alimentes toujours.
Je prends, alors pas des barres, mais je prends toujours maintenant ce que je faisais pas avant, une flasque, ça c'est sûr, avec oui, un peu de miel dedans ou un autre carburant, on va dire. Voilà, mais ouais, maintenant, ouais. Ce que je faisais pas avant. Avant, je pouvais partir une heure et demie, deux heures sans eau et puis j'entrais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Même une sortie d'une heure, je vais prendre quelque chose.
Ouais, d'accord. Non, parce que c'est vrai que souvent on dit qu'on commence à s'alimenter qu'au bout d'une heure, etc. et tout. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie de l'entraînement aussi, t'as raison. Et puis tu récupères mieux, t'enchaînes plus facilement. Tu t'es épaissi, non? Si j'ai l'impression quand je vois les photos sur Instagram.
Oh, Ouais, j'ai repris un peu de poids, ouais. C'est pas plus mal, ouais. Ouais. J'ai repris, je sais pas si du poids, du muscle, j'en sais rien, mais ouais, je me suis peut-être un peu répéci par rapport au tout début. Mais voilà, une fois de plus, au tout début, comme je disais, je me sous-alimentais. J'étais arrivé à un moment où je fais 1m75, 58 kilos. Et donc, ce que je disais, hein, les courses se passaient bien, mais vraiment, la journée, j'avais l'impression que, tu vois, j'allais tomber, quoi. Et donc, aujourd'hui, je fais 1m75 pour 64 kilos. Donc, tu vois, j'ai repris quelques kilos. Mais ce qui me va très bien. Au final, même aujourd'hui, quand je vois sur la ligne de départ, je reste quand même un des plus maigres. Hein. Et ceux qui sont devant souvent sont bien plus tankés que moi.
Mais c'est vrai que c'est bon la course, tu vois, tu l'as dit, hein, on a ce sentiment qu'il faut être le plus léger possible et tout. Et c'est vrai qu'après, c'est un rapport poids-puissance. Mais c'est vrai quand même que quand tu arrives à certains stades et tu te dis après dans ta journée, si tu n'arrives pas parce que tu es papa, tu travailles, tu es en indépendant en plus, donc faut que tu ailles chercher ton salaire, j'ai envie de dire, tes revenus. Tu devais avoir des journées, ça devait être compliqué parce que enchaîner les entraînements, si t'es pas bien, plus en plus, après la vie familiale, plus le travail, etc., quand t'es pas très bien, que tu sens pas très énergie, je sais pas comment on pourrait dire, énergique, je sais pas comment on pourrait dire. Je comprends que tu devais pas être très bien, tu vois, sur cette période-là. Enfin, j'ai pas de mal à le comprendre parce que tu puisais vraiment dans tes réserves, quoi.
Bah, c'était pour ça que l'autre jour, enfin, tu vois, ça fait plusieurs fois que je lisais des choses sur le syndrome de Reddès. Je pense que j'étais dedans parce qu'effectivement, comme je te dis, oui, j'étais épuisé, très souvent de mauvaise humeur, de moins en moins envie de faire des choses, tu vois. Donc, tout ça, c'est des signes, dès que ça arrive, attention en fait. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir plus ou moins tout seul et puis enfin, de m'en sortir, je sais pas si c'est le mot. Mais en tout cas, d'en sortir, on va dire que ça s'est fait naturellement. Hein, j'ai même pas trop capté qu'il y avait des signaux. Mais je pense que pour les gens qui restent dedans à un certain moment, il est grand temps de revoir quelque chose et de commencer justement par la nutrition et voir si on apporte assez d'énergie à notre corps. Et moi, aujourd'hui, je pars aussi du principe que ma pratique, c'est quelque chose d'important dans mon équilibre, mais ça ne deviendra jamais mon métier. Je vais avoir 40 ans, je serai jamais pro, j'en vivrai jamais, donc ça reste que du secondaire. Et même si tu vois, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, il dit ça le Florent, mais vu tout ce qui se met, quand même, il est pas trop bien placé pour le dire. Mais moi, je vois trop de gens autour de moi, en tout cas, pas que je connais forcément personnellement, mais sur les courses et tout, j'ai l'impression que la course à pied, finalement, il n'y a que ça qui compte et je pense qu'il faut pas en fait. Et l'alimentation bah, rentre dans ce cadre, c'est que s'il n'y a que la course à pied qui compte, peut-être qu'on va rentrer dans un cadre d'alimentation beaucoup trop strict, beaucoup trop contraignant. Et tout ça, tu vois, c'est un cercle vicieux au final. Donc ouais, il faut faire attention à tous ces signaux. Et je pense que se faire accompagner, moi j'ai mis du temps à le faire. De se faire accompagner d'un nutritionniste, parce que c'est pareil, Corentin, tu vois, bah, je te disais tout à l'heure, tu me disais qu'il y a des gens qui font pas du tout attention à quoi ils mangent, et moi je te disais qu'il y en a qui font trop attention. Et quand il m'a demandé, parce que tu fais un bilan, il m'a demandé ce que je mangeais à peu près par semaine, les plats et tout, là, il m'a dit, ok, bah ouais, tu manges juste super bien, mais peut-être trop, enfin tu vois, faut pas non plus que ça soit un manuel scolaire, quoi. Il faut qu'il y ait des écarts, il faut qu'à un moment donné, c'est déjà des pratiques assez dures. Comme tu dis, à côté, il y a une vie familiale, il y a une vie professionnelle à gérer. Bah, si jamais tu t'autorises d'écart, ouais, tu peux vite péter les plombs, quoi. Donc voilà. Et puis arriver, j'en sais rien, à 50 ans, en me disant, je suis passé à côté de plein de trucs. Donc voilà, donc tout ça. Et une fois de plus, je ne suis pas parfait, hein, parce que je pense que je suis premier à me mettre beaucoup de contraintes, mais je pense aussi, au fond de moi-même, qu'il faut réussir à s'en taper. Il ne faut pas faire n'importe quoi du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se dit, OK, bon, allez, je lâche les chevaux, maintenant je vais au McDo tous les jours. Ce n'est pas ça le truc, mais continue à faire attention. Mais enfin, ouais, manger de tout, faire des écarts, pareil, si au niveau hors course, là. Quand j'ai commencé, j'allais au restaurant, je prenais un dessert, pendant 2 jours, j'allais m'en vouloir, alors que finalement, ça change rien du tout. Donc voilà, moi, je te dis, j'ai eu la chance au fil du temps, de laisser tomber tout ça, quoi. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, ben, je pense qu'il faut, ouais, il faut essayer un peu de desserrer les boulons, quoi.
Mais tu sais, on en a parlé et c'est un truc qu'on constate, c'est que d'une part, on est beaucoup dans le sport à être atteint de formes de troubles, de TCA légers, mais enfin, qui peuvent devenir graves après si on n'y fait pas attention. Dès qu'on contrôle un petit peu trop les choses, etc., on peut s'en vouloir, on peut se sentir frustré de pas manger certains trucs, ou alors se dire, oh, j'aurais jamais dû manger ce truc-là, etc. et tout. Moi aussi, tu sais, j'ai appris à lâcher sur des choses, hein. Tu vois, hier, avec ma fille, on était allé manger des frites, des hamburgers et tout. Je n'ai aucune culpabilité à le faire, tu vois. Et même maintenant, je mets les photos sur Instagram pour dire, ouais, bah écoute, j'ai mangé ça, etc. Parce que, en même temps, tu vois, je sais que. Je sais que je vais les dépenser, tu vois, dans mon truc, et je le calcule même pas, j'ai même pas de calcul de calories ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un premier point. Et puis, toi, je crois qu'on avait parlé d'un truc sur les goûters des enfants, tu sais, mais quand t'es papa, enfin, tes filles, c'est des filles, hein, que t'as, toi.
Oui.
Il y a les goûters, il y a les gâteaux, le week-end, les choses comme ça et tout. Enfin, si tu les regardes et que tu manges jamais, t'as toujours un petit gâteau qui traîne, t'as toujours des trucs comme ça qui traînent, c'est triste à la fin, quoi.
Ouais, alors moi j'essaie quand même d'éviter de les prendre, mais par contre, ouais, oui, de plus en plus. Enfin, ouais, de toute façon, déjà mes filles, forcément, elles mangent déjà comme elles veulent. Moi, je leur dis, si tu manges un peu mieux, voilà, mais jamais j'irai les empêcher de manger. J'en sais rien, bah, des barres chocolatées ou autre, enfin tu vois, ça reste des enfants et moi quand j'étais enfant j'y avais le droit tu vas pas interdire à des enfants de manger des choses donc oui, c'est pour ça tout ça reste un équilibre et au-delà de ça bah, je connais aussi aujourd'hui quelques athlètes vraiment élites, au final ils font nettement moins attention que les amateurs qui sont trop dedans, tu vois, et ça veut tout dire, donc si eux ils arrive, tu vois, voilà. Après, moi, concernant mon cas, il y a aussi quelque chose qui forcément joue un peu là-dedans, et c'est aussi sans doute pour ça que je m'intéresse à l'alimentation. C'est quand j'étais petit, j'étais assez rond et j'en ai un peu souffert, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai aussi une sorte de traumatisme, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un traumatisme, mais il y a quelque chose qui reste ancré en moi où j'ai toujours un peu peur, peut-être de pas de retourner là-dedans, parce qu'il n'y a pas de mal à être en léger surpoids, mais moi j'en ai souffert parce qu'on s'est un peu moqué de moi et voilà, et peut-être que ça a joué aussi un petit peu là-dedans, en tout cas au début quand je m'y suis mis.
Est-ce que tu t'es blessé pendant cette période-là ou t'as eu des blessures?
Non, jusqu'à là j'ai, enfin je te dis ça là, je pense que j'ai une périostite là au jour d'aujourd'hui, mais non, j'ai non non depuis 4 ans et demi j'ai pas eu de, en tout cas, j'ai pas eu de blessures qui m'ont arrêté un mois, tu vois, ou genre de truc. Les seules blessures que j'ai eues, c'est deux entorses, mais bon, ça reste, c'est juste une mauvaise pose de pied, et puis bah, voilà, ça craque, hein, mais sinon, non, j'ai pas eu de blessure. Non, non.
Non. Non, parce que c'est bien d'avoir échappé à la blessure, parce que c'est vrai que ce genre d'épuisement du corps et tout peut conduire à des blessures. J'en ai parlé ce week-end d'ailleurs avec
Exactement.
une athlète qui était dans le RED-S elle, et tout, qui dit, je crois que ça fait 2 ans, tu vois, qu'elle galère pour revenir, pour reprendre, essayer de reprendre, ça repart dans un sens, ça revient, ça repart, etc. et tout, et que c'est vraiment galère, tu vois, sur le truc, et qu'elle va faire aussi des analyses de densitométrie de ses os tous les ans, alors que elle a 25 ans, tu vois, ou 26 ans. Donc, quand il la voit débarquer, elle dit, je suis entouré que de mamies qui viennent faire le truc. Et même le médecin, enfin, même les gens qui font les analyses sont choqués. Il dit, mais on vous voit tous les ans, vous. Vous savez, normalement, c'est tous les 5 ans que vous devez venir et tout. Il dit, ouais, mais moi, non, quoi. C'est mon cas comme ça. Donc, c'est là où, tu vois, où on se dit, bah, finalement, déjà que tu sois pas blessé, je trouve que c'est bien. C'est génial pour toi, déjà, c'est un premier truc. Mais c'est vrai que à continuer trop longtemps comme ça, c'est vrai que on redit, hein, quand on a fait les épisodes sur le RADES, j'ai monté les liens, c'était le risque, c'est la blessure, fracture de fatigue, épuisement vraiment complet, etc., qui va très très loin, quoi. Donc c'est déjà, enfin, tu te sens rendu compte comme ça et tout. Finalement, cet abandon au Canada, c'était un mal pour un bien.
Ah bah clairement, clairement, tu vois, ah bah oui, et encore aujourd'hui, on va pas dire que j'y pense tous les jours, ça ne m'obsède pas au plus jour et demi, mais à chaque fois que je me pose une question, je repense à cet abandon, et en ayant trouvé pas mal de causes, carrément que c'était un mal pour un bien, que ce soit sur ce plan nutritionnel, enfin, plein de choses, la façon d'aborder les courses, la façon d'aborder mon sport, la façon, plein de choses. Donc oui, c'était un mal pour un bien, ouais, clairement. Clairement, clairement. Même si sur le coup, tu vois, J'ai pas été déçu de l'abandon parce que je pense que même si j'étais très fatigué, j'ai eu la lucidité de me dire que si j'avais continué, ça devenait dangereux. Ça devenait clairement dangereux pour ma santé. Voilà, parce que j'avais du mal à tenir debout et tout, et ça aurait pu mal finir. Donc je ne regrette pas l'abandon. Par contre, il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et de toute façon, c'est le sens de la vie. Hein. Généralement, c'est dans tes périodes noires ou tes échecs que tu rebondis, que tu apprends des choses. Hein. Dans tes victoires, il faut les retenir. Mais finalement, si tu surfes que sur une victoire ou quelque chose qui s'est bien passé, tu occultes d'améliorer des choses à côté. Donc voilà, c'est souvent des éléments déclencheurs, les défaites, on va dire.
Ouais, et puis c'est vrai que tu as raison de le dire aussi, c'est que, bon, et après, il y a des aspects sur la lucidité aussi, où, je sais pas comment c'était le Canada, mais enfin, imaginons que tu sois dans cet état-là sur une course, on va dire, haute, comme l'UTMB, par exemple, avec des chemins escarpés, des choses comme ça, ça peut être super dangereux, ou la diagonale des fous, finalement, parce que sur la diagonale, t'as pas eu ces soucis-là, t'étais physiquement bien, je veux dire.
Si, bah maintenant que tu me parles de lucidité, c'est un point que j'aimerais bien détailler. Si, sur la diagonale, la fin de course, elle a été mal. J'ai même fait un malaise au 107e kilomètre. Alors, est-ce que c'était lié à ça ou la chaleur? Parce qu'on avait quand même 40 à 45 degrés dans ma fat, donc je pense qu'il y a un peu des deux. Mais au-delà de la diagonale, bon, bah, qui s'est fini très fatigué. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis 8 mois aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tomber, on va dire. Pendant les courses, il m'arrivait très souvent de chuter. Et bah, depuis 6 ou 8 mois, je chute nettement moins. Et je pense que c'est un signe. Ça veut dire que c'est plus lucide, tu vois, et les obstacles, même dans les descentes en montagne où avant j'avais peur et je prenais les pieds dans le moindre caillou, bah, c'est de moins en moins le cas. Et donc, je pense que cet apport glucidique, forcément, fait que tu as plus d'énergie. Et donc, plus d'énergie, plus de lucidité. Et t'as moins de risque de chuter ou en tout cas de faire une mauvaise pose de pied ou peut-être de ne pas avoir un obstacle. Voilà. Et donc, ça, je l'ai remarqué depuis 8 mois. Ouais. Et même, tu pourrais le demander à Émilie, ma compagne, elle te le dit. Maintenant, je lui dis, je ne suis pas chuté pendant une course, elle me dit, c'est bien, parce que d'habitude...
Je ne te connaissais pas ce côté Sissi Cusso, en fait, te prendre des gamelles. Mais bon,
j'en ai pris beaucoup.
On en avait parlé avec elle, hein, d'ailleurs, de cette histoire de lucidité, des gadins qu'elle pouvait prendre, etc., d'où ça venait et tout, hein, ça venait de la fatigue, de tout ça. C'est vrai que ça fait partie des éléments et... Ça me fait penser à des choses aussi parce que j'en ai discuté dans certains épisodes dont certains invités avaient parlé aussi de l'intérêt des protéines sur la lucidité. Toi, tu nous as beaucoup parlé de glucides, mais finalement, est-ce que tu prends des protéines ou quelque chose qui est protéiné pendant tes courses?
Bah, pas forcément, parce que, enfin, peut-être dans les bars, tu vois, souvent, je mélange un peu les bars, il y a des bars qui vont être au miel, mais je suis aussi des bars au beurre de cacahuète, donc forcément, tu as quelques protéines, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, je réfléchis, mais pas plus que ça. Après, là, tu vois, dans un mois, je vais faire un gros ultra. Là, je pense que sur les ravitaillements, j'essaierai quand même de prendre des protéines parce qu'à un moment, je pense qu'il y en a besoin. En temps, là, sur la maxi race, bon, à 88 km, ça peut paraître beaucoup, mais ça reste un petit ultra, on va dire. Ça reste un ultra, un petit ultra. Là, j'en ai pas prêt, mais sur un 160, oui, j'en prendrai.
Tous ceux qui ont souffert sur la Maxi Race se disent c'est un petit ultra pour lui. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quoi ta plus grande distance que tu as faite?
Bah, c'est la diagonale aujourd'hui, 160. Après, j'ai fait la TDS, 145, et le Mute et l'Avaredo qui sont aux alentours des 120. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est pas un petit ultra, mais ça reste en dessous des 100 km, mine de rien. Donc c'est... Dans la hiérarchie, on va dire que c'est plus petit qu'une diagonale, forcément. Voilà.
Tu peux le dire, la prochaine course que tu fais, ou c'est un truc que tu gardes secret?
Je communique moins sur ce que je vais faire comme course, tout simplement, parce que j'essaie de plus en plus de... Parce que aussi, j'ai eu tous les défauts, hein, je suis un peu tombé, comme beaucoup de coureurs, dans le « je montre ce que je fais », et finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu cours plus pour toi. Donc aujourd'hui, j'essaie de communiquer moins là-dedans, mais j'ai aucun souci à le dire. Donc je ferai le Val d'Aran début juillet. Donc Val d'Aran, c'est dans les Pyrénées, c'est une course by UTMB qui fait 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Après, on prendra des vacances d'été et je finis l'année par le Grand Raid du Finistère, pas loin de chez moi, le Tour de la Presqu'île de Crozon, et qui une nouvelle fois fait 160 km, mais avec nettement moins de dénivelé. Voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile.
Et tu parlais des courses by UTMB. L'UTMB, c'est un truc qui sera à ton programme un jour?
Ouais, bah écoute, ça fait 2 ans que j'essaye de m'inscrire. C'est pas la course rêvée, parce que la course rêvée pour moi, c'était la diagonale, donc elle est faite. Mais j'aimerais la faire avant de relâcher un peu, parce que aussi, je compte quand même relâcher à un moment donné, et, je vais pas dire bientôt, mais je vais avoir 40 ans. Voilà, je pense que si j'arrive encore à faire 2, 3, 4 ans à ce rythme-là, ça sera bien. Et j'aimerais faire le TMB dans ce créneau-là, ouais. Et puis après, passer peut-être plus sur un mode vraiment sport-plaisir. Je dis pas que je referai pas d'autres courses, mais peut-être que je mettrai moins de contraintes ou moins de séances qui ne sont pas trop plaisir, tu vois, voilà.
Tu parles comme un pré-retraité en
Mais
fait.
oui, j'aimerais la
T'as pas
faire.
40
Ça
ans.
reste mythique quand même. Non, mais il faut aussi à un moment se rendre à l'évidence que c'est un sport qui évolue très vite. Moi, je suis pas dedans depuis très longtemps et je remarque que devant, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus jeune. Et voilà, faut tout simplement être à un moment objectif et se dire que c'est comme ça. Enfin, tu vois, demain, un footballeur qui se met au foot à 35 ans, oui, ça sera compliqué d'être pro. Bah, là, on arrive dans le trade un peu dans ce cas de figure. Quand tu commences tard, c'est forcément plus compliqué qu'un jeune qui va commencer à 22 ans et qui va avoir déjà aujourd'hui des bonnes bases et des entraîneurs, etc. Tu vois, voilà. Donc, faut réussir à être objectif, tout simplement.
Et puis je pense qu'il y a un côté aussi que je pense que tu as, c'est peut-être les côtés perfectionnistes aussi, sur des trucs aussi en te disant j'aimerais bien pouvoir le faire dans des super bonnes conditions, que ça se passe vraiment comme j'ai envie que ça se passe, non? Et t'as pas ce sentiment, enfin en tout cas moi de l'extérieur c'est un peu ce que je vois, non?
Oui, c'est vrai que quand je me mets dans quelque chose, généralement je me mets à fond. Donc ouais, voilà. Et oui, non, t'as raison là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que je me mets une limite, parce que je sais que ce genre de choses, être trop perfectionniste ou vouloir le faire à fond, ça pourra pas marcher jusqu'à 45, 50 ans, et ça peut être source de déception. Alors après, t'as toujours des Ludovic Pommeret, des gens hors normes qui arrivent, ou des Antoine Guillon, mais voilà. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Enfin, là, ça fait 4 ans. Mettons, si je me donne encore 4 ans, on sera pas loin des 10 ans de course, ce qui est déjà pas mal. Et après, il sera temps plutôt de faire du sport avec les copains et sans pression, sans contrainte. Après, je dis ça se trouve, dans 10 ans, tu me verras encore à fond. Mais voilà. Et puis, un peu comme toi aussi, je suis de plus en plus aussi attiré par aussi le vélo, par exemple. Tu vois, des gravel, enfin du gravelman, tout ça m'attire parce que c'est différent, parce que c'est aussi des sports qui sont peut-être moins traumatisants. Enfin, écoute, on verra, je me mets pas de pression. Mais pour répondre à la question de départ, oui, j'aimerais quand même faire l'UTMB une fois dans ma vie et essayer de faire du mieux possible, hein, sans parler d'aller faire un top, je ne sais quoi.
Mais tu sais, ce qui est cool au vélo, c'est que tu peux manger quasiment n'importe quoi parce que, en fait, ils sont rigolos, les coachs. Ils disent oui, mettre des glucides dans les bidons, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, moi, que comme ça se coupe beaucoup moins dans le ventre, tu peux t'arrêter à la boulangerie, que c'est le jeu favori hein, de s'arrêter à la boulangerie. Sur mon Gravelman, j'ai mangé un burger frite à la pause déjeuner et
D'accord.
sans aucun problème. Et tout le monde me dit, mais si tu l'as bien digéré, c'était pas trop lourd, etc. Je dis, bah non, c'est passé, mais vraiment. Alors que ça, sur une course, c'est le truc que tu fais pas. Donc, c'est vrai que c'est une autre approche de l'alimentation. Tu découvres d'autres trucs, etc. Il y a des choses qui sont un petit peu proches, mais il y a d'autres choses qui ont des avantages. Hein. Souvent, on me pose la question de me dire l'écart entre les deux, comment je constate les choses, etc. Bon, après, je pense que si tu veux essayer après de performer, c'est toujours que c'est comme tout. Hein, tu n'arrives plus à manger le burger non plus. Donc, quelle est l'approche que tu peux avoir dedans? Mais en tout cas, t'es pas foutu à 40 ans, je voudrais te rassurer quand même, parce que tu parles un peu comme un pré-retraité. Moi, quand on est 46, qui est sur mes 47, je te dis, t'es pas foutu, c'est tes meilleures, enfin, je dis pas que c'est tes meilleures années sportives, non, mais en tout cas,
Non,
c'est des bonnes années.
non, j'ai pas dit que j'étais foutu, j'ai juste dit que, bah, à un moment, il faut juste s'avouer que là j'arrive, là j'ai là, et que voilà, c'est tout ça, c'est juste ça, tu vois, et que. Enfin, moi, je sais aussi que c'est quand même un sport ou des sports qui sont durs, comme je te le disais, parce que tout à l'heure, je disais, je m'entraîne, et bon, c'est pour ça aujourd'hui que les glucides m'aident à mieux récupérer, je m'entraîne une quinzaine d'heures par semaine, c'est pas négligeable, c'est quand même beaucoup. Et puis là-dedans, tu as des fois des séances qui sont quand même compliquées, que tu n'as pas envie de faire, enfin, comme beaucoup de coureurs, enfin, tu vois, moi, le fractionné, je déteste ça, j'en fais parce que voilà. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je voudrais plus en faire. Voilà, tout simplement. Enfin, il y a aussi ce côté, sans parler d'être foutu, ce côté envie et je dirais pas lassitude, mais de voir sa pratique autrement, simplement.
Allez, tiens, j'ai une dernière question qui s'adresse un peu à ton passé de footballeur que tu as eu. Quand tu regardes maintenant,
Allez.
rétrospectivement, entre ce que tu as fait en course et ce que tu fais est-ce que tu vois, est-ce que tu as vu dans le foot, tu trouves pas que le foot, c'est un sport un peu de feignant quand même par moment?
Ça dépend des joueurs. Après, on n'est pas sur les mêmes types d'efforts. C'est-à-dire que les mecs au foot doivent être prêts le jour J. C'est des efforts beaucoup plus intenses. Hein. On n'est pas sur des efforts constants, on va dire. Après, il y a quelque chose, sans parler de feignant ou pas dans le foot, qui m'étonne énormément. C'est que on est dans un podcast de nutrition, c'est que j'ai l'impression que les clubs pro découvrent la nutrition maintenant. Enfin, moi, j'arrête pas de lire des articles sur des grands médias. Erling Haaland s'alimente de telle façon, ça semble incroyable. Mais moi, ce qui est incroyable, c'est que tous les joueurs de foot ne le font pas, en fait. Enfin, tu vois, c'est leur sport, ils sont pros. Et ça semble incroyable qu'un mec mange bien, en fait. Enfin, ça me choque. Ça me choque plus que le côté, c'est des gros feignants, ils s'entraînent 1 heure par jour. Parce que je pense que c'est pas des gros feignants, pas tous, parce qu'en plus, il y en a quand même pas mal qui font pas mal de choses à côté, qui ont des coachs sportifs. Enfin, si tu regardes un mec comme Benzema, il en est à son âge où il en est, ou des mecs comme Ibrahimovic, parce qu'à côté, ils ont des salles de sport, ils en font beaucoup plus que les 2 heures de foot qu'ils font tous les jours au sein de l'entraînement, quoi.
Ouais, bon, c'était une blague, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes efforts. Moi, c'est vrai que j'avais été beaucoup surpris quand on voit les sportifs professionnels, les footballeurs professionnels en tout cas, le rythme d'entraînement qu'ils ont et par rapport à ce que tu dis là sur le volume. Rappelons, enfin, pour donner les stats, parce que on a un joueur à Clermont qui avait 12 km par match, hein, je crois, l'an dernier, qui était le coureur le plus important. Donc, mais avec que du fractionné, hein, que des accélérations, que des je freine, je vais chercher le ballon, je repars dans l'autre sens, etc. Pour ceux qui s'intéressent, il a marqué un but contre le PSG ce week-end, tu vois, parce que clairement, il a gagné à Paris. Et j'ai parlé avec un arbitre de foot le week-end dernier, bah justement quand j'étais avec Hermano, et qui disait qu'il faisait à peu près, et il est arbitre de ligne en Ligue 2, et ben tu sais qu'il fait 10 km par match environ sur sa ligne à faire les allers-retours, ou il est central aussi en national, ou je sais plus quel niveau. Et il dit, ben, on est autour de 10 km, 11 km dans un match à faire des allers-retours comme ça sur le terrain. Ça paraît, c'est énorme, hein, sur la préparation, parce que c'est que des accélérations. Donc c'est pour ça que c'est aussi une plaisanterie, parce que c'est pas le même genre d'effort, c'est pas le même genre d'entraînement, etc. Mais comme tu dis, les bons, après, ils ont aussi des entraîneurs, ils ont des salles d'entraînement, des programmes d'entraînement très spécifiques, etc. Les arbitres de foot sont devenus pros aussi, ils ont une vraie préparation physique. On voit qu'il y a qui se blessent aussi, d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Donc voilà, c'était plutôt une taquinerie. Bon, bah écoute, Flo, en tout cas, merci beaucoup pour ce regard, hein, et pour ce témoignage sur ce que tu nous as, sur ce changement, etc., de ton alimentation, sur ta franchise aussi par rapport à cet épuisement que tu as pu avoir, parce que je ne sais plus qui c'est qui nous l'avait dit, mais qui considérait que presque beaucoup, beaucoup de gens dans le trail, en tout cas, et dans l'ultra, sont quand même au bord de ces syndromes-là d'épuisement, etc., qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, mais que beaucoup ne le disent pas. Et qu'il faut y faire attention. Tu vas nous rappeler juste, par contre, maintenant, comment on fait, où te suivre? Parce que, bon, peut-être que les gens ne savent pas, il y a un lien dans tous les descriptifs de les épisodes, mais quand même, tu vas nous le redire.
Ça marche. Bah, écoute, où me suivre, c'est très simple, sachant que ce soit mon activité de graphiste ou de trailer, c'est sur les mêmes comptes. Donc, c'est FlowWhyNot, FlowWhyNot. Et il y a donc un Instagram, un Facebook, et on va dire, et un site internet qui est www.flowynote.com. Voilà.
Tu fais toujours tes
Tout
récits de course
simplement.
sur ton site? J'ai pas regardé récemment, mais...
Non, beaucoup moins, parce que comme je te disais tout à l'heure en cours d'enregistrement, d'une part, j'essaye pas de me détacher du monde de la course à pied, mais de parler moins de moi. Et puis aussi parce qu'à un moment, il y a aussi un manque de temps aussi, hein. Faut se l'avouer. Voilà. Et puis j'ai d'autres projets en tête professionnels qui j'espère verront le jour. Donc voilà, on peut pas tout faire. Hein, il faut aussi savoir prioriser.
Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, que tes projets se concrétisent, que bah écoute, tes prochaines courses aussi se
Merci.
passent bien, que ça tu continues comme ça à pouvoir gambader sur les chemins plus ou moins élevés et autres. Je ne t'ai pas demandé si c'était compliqué de préparer de la montagne en étant en Bretagne, mais...
L'éternel débat. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Écoute, ça se passe pas trop mal.
Voilà.
Mais on travaille le mental en Bretagne. Parce que pour faire du dénivelé, c'est. Moi, ma côte maximum fait 30 mètres de dénivelé. Donc, c'est 2 heures à faire des allers-retours dedans. C'est nettement moins sympa que faire du dénivelé en montagne. Mais bon, on fait comme on peut.
Eh bien, écoute, tu as raison. Et après, tu as une autre vue, tu as un autre cadre, etc. Chaque région a ses avantages. Chaque coin a son charme, etc. On ne va pas faire de lutte entre les différentes régions, etc. Tout le monde sait que l'Auvergne est la plus belle région du monde et que derrière, il y a la Bretagne. Et ceci étant dit, je vais maintenant clôturer cet épisode avec un bon coup de chauvinisme. Écoute, merci beaucoup encore une fois, Flo, pour cet épisode. Et puis nous, écoutez, ben, on se retrouve... très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, hein, ça fait partie de mes petites cachotteries personnelles, mais bien sûr on parlera de sport, de nutrition, on a plein de trucs au programme. On parlera de vélo, on parlera de glucose, on parlera de capteurs, on parlera de tout un tas de choses comme ça. En tout cas, merci encore Flo et vous qui écoutez ce podcast, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.
À bientôt, au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.